עכשיו בוא, ולטרוע דרניאר מכות, סוטרל, גנב, ולדיזיאם, מכת בכורות. On va passer directement à ce que Hachem dit à Moshe Rabbeinu au chapitre Yud Aleph, c'est-à-dire au premier verset de ce chapitre. C'est au milieu de la troisième montée. Vayomer Hachem el Moshe. Hachem dit à Moshe Rabbeinu, j'ai encore une plaie que je vais amener sur Paro et sur l'Égypte. Et à ce moment-là, il vous renverra. Donc on est au dernier moment, finalement. Et quand il vous renverra, c'est pas qu'il va vous, il va vous permettre de partir, mais il vous renverra, il vous chassera en réalité. Et alors, pour en introduction en quelque sorte de cette dernière Maka, Hachem fait une demande à Moshe Rabbeinu. Bon, c'est Hachem dit à Moshe Rabbeinu, d'aber na l'ozne ha'am vishalu ish metreu vishal metreuta kle chesef ou kle zahav. D'aber na, parle au Bnei Israël, s'il te plaît, na. Donc les choses, Hachem demande à Moshe Rabbeinu de bien vouloir le faire. C'est vrai qu'en fait, il lui dit d'aber, qui est un ordre, mais c'est atténué par le na. Je te donne un ordre, s'il te plaît. C'est un peu contradictoire. Quand on donne un ordre, a priori, on ne demande pas s'il te plaît. On ne demande pas, ce n'est pas une prière, un ordre, c'est un ordre. Qu'est-ce qu'il lui demande? Il lui demande donc une faveur. Comment est-ce qu'Hachem peut avoir besoin d'une faveur? Hachem peut tout faire. Il n'a pas besoin de demander une faveur. Et là, il demande une faveur, il s'agit de comprendre ce que c'est qu'une faveur demandée par Hachem. A priori, ça n'a pas de sens. Alors, il faut demander au Bnei Israël de demander, demande au Bnei Israël de demander chaque homme. Alors, dans le Stone, ils ont traduit à son ami. Chaque femme a son ami, les ustensiles d'argent et les ustensiles d'or. Alors, il y a plusieurs petites questions à ce sujet-là. C'est le mot qu'ils ont traduit par ami, c'est le mot « réa ». Le mot « réa », c'est le fameux mot qu'il y a dans « ve'avtal réacha kamocha ». Tu aimeras, on traduit en général, Réa par ton prochain, dans cette phrase de tu aimeras ton prochain comme toi-même. Réa, c'est une notion de, au moins, de fraternité. C'est pas simplement une amitié. C'est plus qu'une amitié. Alors, la question qui se pose, évidemment, c'est à qui vont-ils demander cela? Même si on prend les amis, c'est qui les amis? On s'adresse au Bnei Israël qui, jusqu'à à peu près un an, parce que la période des Makot, elle dure à peu près une année. Et là, on est à la fin. Donc, il y a une année, à peu près, ces gens étaient encore esclaves. Esclaves des Égyptiens. Alors, quels amis avaient-ils? Même l'amitié entre Bnei Israël, elle n'est pas tellement évidente. Dans la mesure où quand on est réduit à rechercher son souffle, comme on a vu qu'ils n'entendaient pas Moshe parce qu'ils avaient le souffle court, ils étaient brisés par les travaux difficiles qu'ils devaient faire. Quand on est réduit à ça, on en est réduit à quasiment chercher à reprendre son souffle, on n'a pas tellement de temps, peut-être non plus d'énergie, si vous voulez, pour construire une amitié. Mais si ce ne sont pas les Bnei Israël, alors qui sont leurs amis? Les Égyptiens? Les anciens maîtres? Peut-être il y avait le peuple égyptien qui, lui, a priori, n'était pas les maîtres des Bnei Israël. Chaque Égyptien n'était pas le maître d'un Israël, des Juifs. Mais, oui, c'est une première chose. On ne sait pas vraiment à qui il s'adresse. Et puis, ensuite, on parle d'or et d'argent. Qui avait de l'or et de l'argent? Aujourd'hui, si vous demandez à vos voisins, est-ce qu'ils ont des ustensiles en or et en argent à vous prêter? Ça. Bon, chez les Juifs, il y a un buffet dans lequel il y a quelques ustensiles en argent, peut-être des couverts en argent. Les gens, ils n'ont pas des ustensiles en or. Il n'y avait pas tellement, à ma connaissance, il n'y avait pas des mines d'or en Égypte qui faisaient que les gens avaient de l'or en veux-tu en voilà. A priori, les gens qui avaient de l'or et de l'argent, c'est les gens qui étaient au pouvoir, c'était les gens autour de Paro. Mais ces gens-là étaient vraiment les maîtres des Bnei Israël quand ils étaient esclaves. Est-ce qu'on peut parler d'amitié avec ces gens-là? Mais c'est comme ça, a priori, pratiquement tout le monde lerne ici qu'il s'agit des Égyptiens. Voilà. Vous allez vous demander à votre ami égyptien, à votre amie égyptienne, vous prêtez? Shaalou, vous demandez, vous prêtez des ustensiles en or et en argent? Et puis ça va marcher parce que Vaïten Hashem et Trenaham Be'ene Mitzrayim. C'est-à-dire le peuple le juif, le peuple des Hébreux, là, il est bien vu par les Égyptiens. Et donc, ça va marcher. Ils vont leur prêter tout ça. Ils vont leur prêter, c'est Kélim. Je vous dis franchement, je ne sais pas d'où ils les auraient. Mais bon, On va pas, pour l'instant, on ne va pas s'entrer là-dedans.
Et Rav, comment les Égyptiens avaient contact avec des esclaves qui n'avaient pas le temps de communiquer, d'avoir des
Ce que
voisins,
je
quoi.
vous ai dit, je vous ai dit, je ne vois pas comment on pouvait construire des relations avec qui que ce soit d'ailleurs.
Oui, non, mais ça, vous avez dit ils appréciaient les Bnei Israël. Je vois
Ah,
pas comment.
ils ont apprécié, ça veut dire, je pense que ça veut dire la même chose que ce qui est dit, que la fin du verset, c'est que le Gamaïch Moshe, Gadol Meod, Beretz Mitzrayim, Beine Avde Paro, ou Beine Ha'am. Qu'est-ce que ça veut dire que Moshe était grand aux yeux des serviteurs de Paro et du peuple? Pas de Paro, Paro lui. Mais ça veut dire que, vous vous souvenez, au bout d'un moment, quand les plaies sont arrivées, dans les premières plaies, les Khartoumim, les magiciens égyptiens, ils faisaient quelque chose qui ressemblait à ce que Moshe Rabbé nous faisait sous l'ordre d'Hachem. Mais au bout d'un moment, quand il y a eu cette histoire des poux, de la vermine, quoi, ils ont dit à Paro, ils ont dit, ça nous, on ne sait pas faire. Et si nous, on ne sait pas faire, nous qui sommes les grands maîtres de la magie, personne ne sait faire. Donc, ce que tu vois là, ce que ce bonhomme fait là, devant toi, Moshe, c'est pas de la magie. Et eux, ils se sont exprimés en disant, c'est Etzba Elokim. C'est le doigt d'Elokim. Et donc, ils lui ont dit, ça veut dire, il faut obéir. C'est plus fort que nous. Mais Paro n'a pas obéi. Alors, petit à petit, il y a eu un mouvement de mécontentement du peuple, y compris même de certaines personnes relativement bien placées, parce que ça faisait des dégâts, ces makot, ces plaies. Et les gens avaient compris que c'est pas Moshe qui est le problème, c'est que c'est Paro qui n'obéit pas. On lui donne des ordres, une entité supérieure. Ils ont dit, c'est, nous on traduit Elohim, donc ils ont dit, c'est Dieu qui envoie ça. Le doigt de Dieu. Quoi que cela ait voulu dire chez les Égyptiens, ça veut dire c'est quelque chose de bien plus fort que nous, il faut que tu cèdes. Et donc, ils ont compris que Moshe était un grand bonhomme. Et tout le monde l'avait compris. Sauf Paro qui ne voulait pas le voir. Je pense que Paro le savait aussi, mais il ne voulait pas le voir. OK. Voilà. Hachem a demandé un service à Moshe. Moshe Rabbeinu, il lui a demandé de demander au Bnei Israël de faire cette démarche. Et le texte a l'air de dire, ben, ça a marché, quoi. La démarche a marché. Pourquoi est-ce qu'il fallait de l'or et de l'argent? Alors, tous les Mefarshim me le disent, comme vous le savez aussi, c'est dans Brit Ben Abtarim, quand Hachem a annoncé à Moshe Rabbeinu que ses descendants seraient esclaves dans un pays qui n'est pas le leur, etc., il leur a dit, mais à la fin, ils sortiront Birkhush Gadol. Ils vont sortir avec un grand butin. Alors Moshe dit à, pardon, Hachem dit à Moshe Rabbeinu, Avraham Avinu, donc et les descendants, ils pourraient se dire, Hachem, il a très bien réalisé la première partie, on était esclaves, ça pour être esclave, on l'a été. Mais la deuxième partie, on va ressortir avec un grand butin, quel butin, on n'a rien. Et donc Hachem, c'est ça la demande d'Hachem. Quelque part, de façon paradoxale, Hachem demande au Bnei Israël de lui permettre d'accomplir sa promesse. Je fais une promesse et je vous demande de faire en sorte que je puisse tenir ma promesse. Alors, il tient sa promesse en faisant en sorte que la demande d'Ebné Israël soit reçue. Bon, ultimement, qu'est-ce qu'ils vont faire avec l'or? Ben, on sait bien, ils vont faire avec l'or, ils vont construire le Mishkan. Dans le Mishkan, il y avait beaucoup d'or et d'argent. On consommait beaucoup d'or et d'argent pour construire le Mishkan. Mais est-ce que c'est là tout l'or? Non. On sait que ça, c'est le fameux butin dont Hachem parle dans la promesse. Mais en réalité, ce butin-là était bien inférieur au butin que les Bnei Israël vont obtenir au passage de la mer. Parce que les Égyptiens, quand ils ont poursuivi les Bnei Israël, bon, ça c'est un scoop, hein, vous ne savez pas encore, ça viendra seulement la semaine prochaine, mais enfin bon, je vous le dis à l'avance, quoi. La cavalerie égyptienne a poursuivi les Bnei Israël, comme ça se faisait souvent, et ça s'est encore fait, on a des témoignages au Moyen-Âge, etc. Les gens, quand ils partaient en guerre, ils partaient avec leurs trésors. Ce qui fait que celui qui perdait la guerre, il perdait aussi des trésors. Celui qui la gagnait, il gagnait aussi un trésor. Donc, ils avaient des chars, ils avaient des chevaux, ils avaient de l'or, de l'argent avec eux. Et tout ça, ils l'ont perdu à la mer. Et à la mer, les Bnei Israël ont ramassé tous ces trésors. Et on sait, par exemple, que un des plus habiles, les plus zélés ramasseurs de trésors à la mer, c'était Korach. Ce qui a fait de Korach la personne la plus riche du clan Israël. Et c'est à cause de cette richesse, entre autres, qu'il s'est senti capable de s'opposer à Moshe Rabbeinu. Parce qu'à ce moment-là, il a pu dire qu'on est tous égaux, la fameuse théorie, mais au fond de lui-même, il se disait un jour ou l'autre, le clan Israël aura besoin d'argent. Alors, c'est moi qui fournirai l'argent. Et du coup, j'aurai le pouvoir. Il y a encore une chose avec cette histoire de l'or. Un des arguments de Moshe Rabbeinu, quand il a voulu défendre les Bnei Israël qui avaient fait le veau d'or, c'était d'accuser Hachem. Il lui a dit, c'est ta faute s'ils ont fait le veau d'or. Tu leur as donné trop d'or. S'ils n'avaient pas eu d'or, ils n'auraient pas pu faire le veau d'or. Dizahav, c'est... Il y avait Dizahav, il y avait trop de, en fait, trop d'or. Donc, c'est un des arguments de Moshe Rabbeinu. C'est pas que c'est obligatoirement vrai, mais d'un certain côté, bon, c'est presque une vérité de la palisse. C'est sûr que s'ils n'avaient pas eu d'or, ils n'auraient pas pu faire un veau d'or. Bon, ils n'auraient pas empêché de faire autre chose, éventuellement. Mais peut-être que si ce n'était pas un veau d'or, ça valait pas la peine. Visiblement, il faut, pour que ça soit une divinité, il faut qu'il y ait de l'or. S'il n'y a pas d'or, ça marche pas. Et puis, il y a un grand problème. Parce que, qu'est-ce qui est demandé ici? Parle, je t'en prie, aux oreilles du peuple, qu'il demande. Chacun a son ami, chaque femme a son ami, etc. Ils ont emprunté, mais ils n'ont jamais rendu.
Mais Rav, si l'or allait être récupéré au moment du passage de la mer par les cavaliers qui sont morts avec, avec l'or et l'argent, pourquoi leur demander à ce moment-là de prendre de l'or?
Parce que il fallait que la promesse Hachem soit réalisé au moment de la sortie d'Égypte. Hachem voulait avoir réalisé sa promesse. Quand ils sortiront avec un grand butin. Or, le butin, il l'a eu une semaine après. Le passage de la mer, c'est une semaine après. Alors nous, depuis notre position aujourd'hui, on dit, bon, ils auraient pu attendre une semaine. Mais bon, ce n'était pas la situation des Bnei Israël. Eux, ils devaient savoir. Et en plus, on a l'impression que c'est surtout le Midrash a l'air de dire que c'est Avraham Avinu qui ne serait pas content. Avraham Avinu n'est pas content parce que de facto, il n'aura pas réalisé la promesse. Quand ils sont sortis, ils n'auraient pas eu d'or et d'argent s'ils n'avaient pas eu, ils n'avaient pas emprunté. Mais bon, cet emprunt, effectivement, il n'a jamais été remboursé. Alors en soi, c'est assez gênant, pour rester très poli, mais c'est assez gênant d'imaginer. On a construit le Beit HaMikdash, le Mishkan, pardon, en partie, en tout cas, avec cet or-là, qui est un or, l'or qu'on a gagné dans la guerre, ça c'est les règles de la guerre, disons que c'est bon. Mais cet or-là, il a été emprunté, il n'a pas été rendu. Donc on a construit le Mishkan avec de l'or et de l'argent, en tout cas acquis de façon pas tout à fait nette. On va dire, c'est pas complètement du vol parce que les autres l'ont mis à disposition, je sais pas. Bon, enfin, c'est presque du vol. En soi, c'est insupportable. Et c'est insupportable. Et la Gemara, elle traite ce problème. La Gemara, elle rapporte qu'au temps d'Alexandre le Grand, les Égyptiens sont allés chez Alexandre, qui était donc le maître de toute la région, et ils lui ont dit, on demande que nos droits sur la terre d'Israël soient préservés. Qu'on nous donne cette terre d'Israël. Pourquoi? Parce que les Bnei Israël nous ont emprunté de l'or et de l'argent, qu'ils ne l'ont jamais rendu, et c'est une quantité telle qu'ils n'ont sûrement pas aujourd'hui de quoi nous rendre. Et donc, on veut qu'il y ait saisie de leurs biens. Nous voulons mettre la main sur les terres d'Israël en paiement de ce qu'ils nous ont pris. Alors, la Gemara rapporte qu'Alexandre a convoqué les Chachamim. En fait, là, Alexandre, il vit à l'époque de Shimon HaTzadik, c'est-à-dire à la fin de ce qu'on appelle les Anshei Knesset HaGdola, la fameuse grande assemblée, qui sont les maîtres qui ont, par exemple, qui ont mis au point le texte de la Tfila. C'est une assemblée dans laquelle il y avait des prophètes encore, il y avait les trois derniers prophètes. Et il y avait par exemple aussi Mordechai, le Mordechai d'Esther. Et il y avait Shimon HaTzadik aussi, dont on parle dans Pirkei Avot. Juste pour que... Chez les Goïm, Alexandre, c'est l'époque d'Aristote qui était son précepteur. Alors Alexandre a convoqué les Chachmei Israël. Il leur a dit, qu'est-ce que vous dites là, en réponse à cette accusation? Alors, la Gemara rapporte, quand les Bnei Israël ont dû réfléchir à qu'est-ce qu'on va répondre. Alors il y a un jeune maître, qui a dit, écoutez, laissez-moi aller répondre. Si mes arguments sont gagnants, bon, tant mieux. Et si mes arguments ne sont pas gagnants, vous aurez toujours la possibilité de dire que c'est un petit rabbin là qui s'est avancé là et qui a parlé, mais en fait il était autorisé par personne. Et à ce moment-là, vous direz ce que vous pensez devoir dire. Pourquoi ça se passe comme ça? On ne sait rien. Pourquoi est-ce que ça ne s'est pas passé normalement? C'est les Chachmei Israël qui vont répondre. La Gemara nous raconte la suite. Il est allé répondre au nom des Bnei Israël et en réponse, il a demandé aux Égyptiens « Sur quoi vous basez-vous pour nous accuser de vous avoir emprunté de l'or et de l'argent ?» Et ben, ils disent « Nous, on s'appuie sur la Torah. » Dans le texte de la Torah, c'est marqué explicitement. On parle Shabbo, ici, c'est écrit. Alors, il a dit « Ok, ben si c'est comme ça, alors moi aussi, je vais m'appuyer sur le texte de la Torah. » Et il a dit, dans la Torah, il est marqué que Hachem avait annoncé qu'on allait être esclaves pendant 400 ans. Alors, pendant tout ce temps-là, nous avons travaillé pour vous, vous ne nous avez jamais rien payé. Donc voilà la facture, 400 ans à 600 000 personnes qui travaillent, je ne sais pas combien d'heures de travail ils avaient, je ne connais pas le SMIG horaire, en tout cas il a fait la multiplication et les additions, et la facture était bien plus imposante que ce que réclamaient les Égyptiens. Et donc les Égyptiens sont partis. Alors, vous avez probablement tout entendu ce qu'il a dit, et vous avez compris pourquoi sur quoi il s'est basé. Il a pris le texte tel qu'il est écrit dans la Torah. Mais on n'a jamais été, on n'était pas 600 000 durant tout l'exil en question. C'est tout à la fin qu'on était 600 000. On n'était pas 400 ans, on est resté seulement 210 ans. C'est vrai qu'on devait rester 400 ans, mais bon, certains expliquent que, bon, on était obligé de sortir parce qu'on avait touché le fond à ce moment-là, et aussi que ces 210 ans, vu la dureté de l'exil et de l'esclavage, valait 400 ans. Il y a aussi d'autres explications. Donc en réalité, il leur a répondu en quelque sorte en prenant la Torah comme s'il n'y avait pas de Torah chez Baal-Pé, comme s'il n'y avait pas de Torah orale. Il n'est pas marqué dans la Torah explicitement qu'on est resté 210 ans seulement. C'est écrit « Redou ». Reish Dalet Vav, c'est la Gematria 210. Mais ça, c'est Torah, c'est de façon allusive, disons. C'est des Gématriotes, etc. C'est pas un texte. Et puisque ils ont eu la prudence de dire qu'ils s'appuyaient sur le texte, ils ont dit, OK, je vais m'appuyer sur le texte aussi, mais tel que vous le lisez, tel que Alexandre se le fait lire, probablement. Alors, pourquoi effectivement, bon, ça a été accepté, parce que les Égyptiens ont cessé d'exiger quoi que ce soit. Alors, est-ce que ça règle le problème du vol, entre guillemets? Formellement, oui. C'est l'autorité de la chose jugée. Ça a été jugé. Et il a été jugé que, en fait, ce que les Bnei Israël devaient, quelque part, c'était une façon de se faire payer au moment où ils s'en vont et qu'on leur a rien payé. Ils se sont payés sur la bête, en quelque sorte. C'est pas complètement satisfaisant, mais en tout cas, c'est comme ça. C'est ce qu'on a, en fait. Donc, on a une situation très paradoxale qui fait que Hachem demande au Bnei Israël de lui permettre de tenir sa parole. Et ça passe par quelque chose qui apparaît comme au moins indélicat, mais sur lequel il y a eu un jugement d'Alexandre, jugement des nations, en quelque sorte. Et les nations ont jugé que c'était OK, c'est bon.
Mais ils n'ont pas... Pardon, Rav. Est-ce qu'ils n'ont pas fait preuve d'émouna? C'était une épreuve quand même d'aller demander de l'or et de l'argent aux Égyptiens, eux qui n'avaient même pas de quoi s'acheter de la paille pour construire des pierres.
Alors, c'était demander une faveur, mais il ne faut pas oublier que les Bnei Israël ne travaillaient plus depuis un an déjà. Et que, comme le texte le dit, le vent avait tourné. On est juste au moment où ils vont sortir. De toute manière, il fallait savoir, il fallait les demander. Je vous dis, je ne sais pas d'où ces gens-là auraient eu cet argent. Avaient cet argent, la Torah dit qu'ils avaient, puisqu'ils l'ont donné. Je ne sais pas d'où ils avaient ça. Est-ce que l'Égypte était tellement florissante que n'importe qui quasiment avait de l'or et de l'argent? En fait,
on ne peut pas le compter comme une preuve de foi que des Hébreux vis-à-vis d'Hachem, comme il leur a demandé de brûler, de faire le Corban Pessah, ou bien de prendre
dans le Corban Pessah, il y avait un élément de provocation. Imaginez que vous êtes en Inde et vous attachez à votre lit leur vache sacrée, et quand un Indien vous demande, un Hindou là-bas, il vous demande qu'est-ce que vous faites avec ça, il dit, c'est rien, on va faire un sacrifice dans 4 jours, on va tuer ta vache. On va faire un méchoui avec ta vache. Je pense que vous n'avez pas le temps de finir la phrase. Ils vont vous tuer. Moshe Rabbeinu avait bien dit à Paro, quand Paro disait, mais vous pourriez faire tout ce que vous voulez faire en restant ici, il a dit, mais ils vont nous lapider, les gens, s'ils nous voient faire les sacrifices avec ce qui est leur idole. Là, il y avait, vous avez raison, là, il y avait... Ça, c'est une manifestation de la confiance en Hachem. Mais aller demander de l'or et de l'argent, dans le pire des cas, on te jette à la porte, quoi. On ferme la porte au nez ou on te chasse. Si tu es entré, on doit te chasser à coup de pied, je sais pas. Dans le pire des cas. C'était pas... Bon, c'est... Mais là, comme ce qu'il leur demande, visiblement, ça se passe à un moment où les Égyptiens sont en bon terme avec les Bnei Israël. Il n'y avait pas une très grande épreuve. Non, il y a un autre grand problème. Le Gaon de Vilna, il soulève un big problème, grand problème. C'est ce mot de Réhu, Réhuta. Qui est donc le mot construit sur le mot Réa. Gaon dit, jamais dans la Torah, le mot Réa ne s'applique à un non-juif. Donc ça, c'est pas possible de dire qu'ils sont allés demander aux Égyptiens. Mais le Gaon, enfin, j'ai pas vu de l'explication que donne le Gaon. Alors de quoi en parle-t-on? Alors, j'ai déjà raconté, peut-être une autre année. Je vais vous dire comment je me suis expliqué la lecture du Gaon, mais je ne sais pas si c'est, évidemment, c'est à ça que pensait le Gaon. J'ai pensé la chose suivante. Les Bnei Israël doivent sortir d'Égypte et ils doivent devenir un peuple. Vous savez bien que quand ils sortent d'Égypte, ils ne sont pas encore un peuple. Dans les différentes étapes pour passer de l'Égypte au Sinaï, les Bnei Israël ont campé de temps en temps. Et quand la Torah décrit ces stations où ils ont campé, on s'est marqué « ils ont campé » au pluriel. « Ils ont campé » à chaque fois. Sauf quand ils sont arrivés au pied du Sinaï, où là-bas, le texte dit « il a campé ». Quand on parle de « il a campé », on parle du peuple d'Israël. On peut en parler au singulier. Ils forment un tout. Mais jusque-là, c'était un amas de personnes, disons. Un rassemblement de personnes. Mais ils ne formaient pas encore un peuple. Donc, quand ils sortent d'Égypte, ceux qui sortent d'Égypte, c'est une foule de gens. Mais ce n'est pas encore un peuple. Ce n'est pas vraiment encore un peuple. Donc, il y a un problème, en fait. Parce que les Bnei Israël sont passés en Égypte, dans le fameux cours à Barzel, dans ce creuset, en fait, pour devenir un peuple. Or, ils ne le sont pas quand ils sortent. Donc, j'ai pensé qu'en réalité, ils n'étaient peut-être pas un peuple, mais au moment où ils sortent, il y a une espèce de, on peut presque dire, un tissage. Il y a des relations qui existent entre les Bnei Israël, qui sont, si vous voulez, la préfiguration de ce que sera une structure de peuple. Ça commence par des relations. Si on a des gens, si c'est discret, chacun est pour soi, aucune continuité, il manque tout pour faire un peuple. À partir du moment où il y a des relations, alors, on a un embryon, on a les conditions nécessaires pour aller dans la direction de fabriquer un peuple. Or, les Bnei Israël, comme je vous ai dit avant, c'était des esclaves. Et quand on est esclave et qu'on en est à chercher son souffle, alors même si effectivement il y a des gens hors du commun qui sont à l'écoute des autres, mais comme on le sait, il y avait dans les camps des gens qui ont volé la couverture des autres, par exemple, sachant que le type sans couverture, il allait mourir. On volait le pain des autres, etc. Il n'y avait pas obligatoirement une grande solidarité. Il y a eu des groupes qui étaient solidaires, ça leur a permis de tenir ensemble. Et ceux qui étaient la masse comme ça, s'ils n'avaient pas des relations qui dataient d'avant, donc c'est très possible que les Bnei Israël manquaient justement de relations entre eux. Alors, je voulais expliquer que ce que dit le Gaon, c'est qu'en réalité, il leur a demandé d'emprunter les uns aux autres. Le problème de l'or et de l'argent, c'est toujours le même problème. On ne sait pas très bien d'où ils auraient eu de l'argent, de l'or et de l'argent, mais peut-être qu'ils en avaient parce que, je vais faire une parenthèse, les Bnei Israël étaient dans des conditions terribles dans l'exil égyptien, l'esclavage égyptien. Mais ils avaient des troupeaux, par exemple. À Goshen, ils avaient des troupeaux. On nous dit clairement que quand la peste a frappé, animal a frappé les animaux, eh bien personne, aucun animal n'est mort chez les Bnei Israël. Ils avaient aussi beaucoup des troupeaux. Donc ils avaient des richesses à Goshen. Indépendamment, on ne sait pas que ça date de l'époque de Yosef ou je ne sais pas, en tout cas, ils avaient les choses. Donc certains avaient. Peut-être qu'il y avait aussi une hiérarchie parmi les Israéliens, mais certains qui étaient des responsables, d'autres qui devaient travailler, etc. Il y avait un embryon de hiérarchie, en fait, mais pas vraiment de relation. Et donc, ce que Hachem voulait, c'est qu'il y ait des emprunts. Je te prête, et je te rends, etc. Donc ça fabrique un peu artificiellement des relations. Ce que Hachem voulait, c'est que les Bnei Israël construisent ces relations. Mais ensuite, quand les Égyptiens ont vu que les Bnei Israël étaient en train de construire des relations entre eux, et que ça rendait la vie plus agréable, alors, et qu'ils étaient en relativement bon terme avec les Bnei Israël, comme on le voit dans le Psukim, alors ils ont dit, nous aussi on veut participer à ces relations. Alors eux, du coup, on a emprunté chez eux aussi. Donc on n'est pas allé leur demander à eux. Parce que Réa, ça a commencé à demander à son frère, à sa sœur, à son voisin, juif en fait, hébreu. Et après, les Égyptiens se sont mêlés à cet embryon de société qui leur paraissait plus agréable que la leur. Et là, ils ont emprunté ce qu'ils avaient. Et peut-être pour bien entrer dans cette société, ils ont peut-être donné des choses qui avaient peut-être plus de valeur que ce qu'échangé entre eux les Bnei Israël. C'est possible. Ça ne résout pas le problème du fait qu'on n'a pas rendu ce qu'on avait emprunté. Mais ça résout le problème du terme. Reuta pour les femmes, Reuta, dit le Gaon, ça ne peut jamais vouloir dire qu'on est allé demander à un Égyptien. C'est Réa, ça n'est pas un non-juif. C'est obligatoirement un juif. Bon, c'est juste une parenthèse. Enfin, la remarque du Gaon est fondamentale, il faut répondre. Propose une solution, maintenant il y en a probablement d'autres. Donc voilà, et on a dit juste ce petit morceau, et immédiatement après, Moshe Rabbeinu va faire ce qu'Hachem lui a demandé, c'est-à-dire il va aller parler au Bnei Israël de la sortie d'Égypte. Alors il leur dit, voilà, qu'à Hatzot, à peu près à Hatzot, la moitié de la nuit, il parle au nom d'Hachem, Ani Yotze Betoch Mitzrayim, je vais sortir au sein de l'Égypte. Donc il va y avoir une espèce de présence divine au sein de l'Égypte. Présence divine malgré toutes les idoles, etc., une présence divine qui va détruire les idoles. Si vous voulez, c'est comme si la présence divine, elle avait un rayonnement tel que, bon, il n'y avait rien qui tenait. Et ou mettre du fait que je passe en Égypte, mettre kol bechor be'eretz Mitzrayim. Et tous les premiers-nés d'Égypte vont mourir, que ce soit dans le monde, parmi les humains, ou parmi même le bétail. Et parmi les humains, bien sûr le prince héritier, mais tous les Bechorot, jusqu'à y compris Bechor HaShifra HaSheracha HaKhaim. Le premier-né de la servante, de l'esclave qui tourne la meule, c'est-à-dire celle qui est tout en bas, elle a aussi un premier-né. Si elle a un premier-né, il va mourir aussi. Alors, tout le monde demande, mais qu'on fasse mourir le premier-né de Paro et peut-être tous les gens autour de Paro, mais elle, c'est une esclave. Pourquoi est-ce que son premier-né allait mourir? Elle était sur au même niveau que les Bnei Israël qui étaient esclaves. Alors, il y a un midrash qui dit que Paro a acheté en quelque sorte une paix sociale parce que les esclaves égyptiens ont dit à Paro qu'ils ne se révolteraient pas contre lui. C'est vrai que les conditions n'étaient pas acceptables, etc. Mais nous ne nous révolterons pas contre toi à la condition que les Bnei Israël soient en dessous de nous. Si eux sont inférieurs à nous dans la hiérarchie, alors on ne se révoltera pas. Et donc c'est pour ça que tous les esclaves ont perdu les porotes aussi. Parce que ils ont contribué, peut-être pas directement, mais ils étaient demandeurs qu'on écrase les Bnei Israël. L'essentiel, c'est qu'ils ne soient pas, eux, le plus bas dans la société. Que les Bnei Israël soient en dessous d'eux. À ce moment-là, tout fonctionne. Dans les camps, les assassins, les voleurs, etc., étaient mieux placés que les juifs, évidemment. Et alors, à ce moment-là, il y aura une clameur terrible qui va dépasser tout ce qu'il n'y a jamais eu et tout ce qu'il n'y aura jamais. Mais bien sûr, chez les Bnei Israël, il n'y aura pas un bruit, un chien n'aboiera même pas contre eux. Pour que vous sachiez, ce qui est l'essentiel, c'est que Hachem manifeste très clairement qu'il y a une différence radicale entre l'Égypte et Israël. Yaflé, c'est-à-dire il y a vraiment une aflaya, une séparation radicale entre l'Égypte et Israël. Et tu diras donc à Paro que tous tes serviteurs, on ne lui a pas dit que lui-même viendra aussi, vont venir supplier, mon cher Ebné Israël, sortez! Sortez pour que cette mort cesse de se manifester. Et Moshe Rabbeinu est sorti de chez Paro très en colère. Et en fait, pourquoi est-ce que Moshe lui annonce que tout le monde viendra lui supplier de partir? C'est que Moshe Rabbeinu refusera de partir. Parce que quand ça va se réaliser, ça, effectivement, Paro va finalement, il va se réveiller, il était allé dormir tellement il n'y croyait pas, quelque part. Donc, il s'est réveillé dans les clameurs, là. Et il est allé, il a cherché Moshe Rabbeinu, mais comme il avait dit à Moshe Rabbeinu, je veux plus te voir, Moshe Rabbeinu s'est caché. Bon, au bout d'un moment, il s'est montré à lui. Et Paro lui a dit, partez. Alors, Moshe Rabbeinu a dit, non, on va pas partir comme des voleurs. On partira quand il fera jour. Et puis aussi, nous ne partirons qu'après que tu aies signé un décret libérant les esclaves hébreux. Parce que c'est vrai qu'ils ne travaillaient plus, mais formellement, ils étaient encore esclaves de Paro. Et en étant esclaves de Paro, quelque part, à ce moment-là, alors c'est ce qu'on dit dans la Agada de Pessah, si Hachem ne nous avait pas sortis à ce moment-là, nous serions encore à nous, Bneinu, Bnevaneinu, Meshubadim, Aïnu, le Pharaon de Mitzrayim. On serait encore esclaves de Paro en Égypte. Ça ne veut pas dire qu'on serait concrètement des esclaves. Mais formellement, Paro et ses descendants auraient encore, en quelque sorte, un droit sur nous. Nous serions formellement encore ses esclaves. Même s'ils ne pourraient pas concrètement nous réduire en esclavage, mais formellement, on serait encore ses esclaves. Et donc, Moshe a dit, Moshe Rabbeinu a dit, on ne sortira pas. Tant que tu n'auras pas donné ça s'appelle un guet aussi, quasiment un document de libération des esclaves, dans lequel tu renonces à tout droit sur eux. Alors, au début, Paro ne voulait pas. Mon chien dit, bon, non, nous, on n'est pas pressés, hein. Et après, la pression était tellement grande que Paro a fini par accepter. Et donc là, Hachem dit à Moshe Rabbeinu, tu sais, il va pas accepter de libérer avant que il croit que ça viendra pas, etc. Il ne te prend pas au sérieux. Bon, il faudra vraiment que ça se fasse. Et puis, en plein milieu, donc, on est en Égypte, les gens sont encore esclaves formellement de Paro, et arrive le fameux texte dont Rabbi Yitzhak avait dit dans le Midrash de la Parasha de Bereshit, que la Torah n'aurait dû commencer qu'ici. Voilà, ici, dans ce début du 12e chapitre, là, ici aurait dû commencer la Torah. Si ce n'est que, etc. Qu'est-ce qu'on dit ici? Vayomer Hashem el Moshe ve'el Aaron be'eretz Mitzrayim lemor. Hashem parle à Moshe et à Aaron, on est encore en Eretz Israël. En Eretz Mitzrayim, pardon. Et il leur dit, « Achodesh azelachem, rosh chodoshim, rishonu lachem le chodesh hashana. » Alors, ce mois, on est dans le mois de Nissan, ce mois sera pour vous le premier des mois de l'année. C'est-à-dire, il lui dit, vous allez avoir, pour certaines choses, sans abolir le calendrier standard qui commence à Rosh Hashanah en automne, si vous voulez. Maintenant, on est au printemps, on est au mois de Nissan. Vous allez avoir un deuxième calendrier qui va fonctionner en parallèle avec le premier. Et dans les mois, le mois numéro 1, ce sera Nissan. Et le mois de Tishri, qui est le mois qui contient Rosh Hashanah, c'est le septième mois. Donc, quelque part, c'est les symétriques. Printemps ou en automne, l'année elle commence ou au printemps ou en automne. Bon, on a déjà beaucoup parlé de cette histoire. Alors, juste cette phrase-là, en fait, c'est cette phrase-là qui représente la première mitzvah qui est donnée au Bnei Israël en tant que peuple. C'est remarquable. On leur donne une mitzvah. Quel est le contenu de mitzvah de cela? à vous de fixer ce mois-là, qui sera le premier mois. Donc, on a une mitzvah de fixer le début du mois. C'est-à-dire, on va fixer le début du mois en regardant la lune. Alors, on appelle début du mois le jour, disons, juridiquement, ça sera comme ça, le jour où deux témoins ont vu la nouvelle lune. Alors, comme vous savez, à ce moment-là, c'est un croissant très, très, très fin de lune qu'on voit au tout début. La veille, c'était nuit noire. Et après, il y a un croissant de lune qui est visible. Et la mitzvah, elle concerne tout Israël. Toute personne qui aura vu la nouvelle lune, elle va se précipiter à Yerushalayim pour témoigner qu'elle a vu la nouvelle lune. Et cette mitzvah-là, ce déplacement, imaginez que c'est quelqu'un du Galil qui a vu la nouvelle lune, il va prendre son âne ou sa voiture et il va foncer à Yerushalayim, au Beit Din, là-bas, Sanhedrin, et il va aller dire, voilà, j'ai vu la nouvelle lune. Et s'il y a quelqu'un d'autre qui, avec lui, a vu la nouvelle lune, on va interroger ces gens, on va vérifier que c'est bien un croissant de lune qu'ils ont vu et pas un nuage qui les a trompés. De toute manière, les Bnei Israël savaient calculer la nouvelle lune, ce calcul, et il y avait aussi des images de nouvelle lune. On lui a demandé, est-ce que tu as vu comme ça? On va lui demander dans quel sens était la courbure de croissant de lune, quoi. Bon, est-ce que c'était un C, si vous voulez, ou est-ce que c'était la moitié d'un D? Alors, s'il répond de façon adéquate, il répond que sa réponse est possible, c'est plausible, et s'ils sont deux, alors le chef du Sanhedrin va proclamer « Mekoudash, Mekoudash », il va dire deux fois « Le mois est commencé, le mois est sanctifié, c'est Rosh Chodesh aujourd'hui ». Alors il va peut-être dire ça à 4 heures de l'après-midi, hein, avant le coucher du soleil. Alors voilà, c'était ce jour-là, c'était Rosh Chodesh. Donc le lendemain, ça sera déjà, disons, le deuxième jour du mois. En d'autres termes, on donne la première mitzvah qui est donnée ici aux Bnei Israël, qui sont encore, j'insiste, qui sont encore formellement des esclaves, c'est la mitzvah de fixer le temps. Si vous voulez, ça concerne en particulier les Moadim, Pessah, Sukkot, etc. Alors, tout le monde sait que Pessah, c'est le 15 Nissan. Ça, c'est ce qu'Hachem a dit. Le 15 Nissan, on a rendez-vous. Pessah. Mais c'est nous qui disons quand est le 15 Nissan. Puisque c'est nous qui disons quand est le premier. Parce que dans cette opération, le Sanhedrin est souverain. C'est-à-dire que si ça ne lui convient pas, il peut décider d'ignorer le témoignage et d'annoncer que Rosh Chodesh, ce sera seulement demain, et pas aujourd'hui. Alors, il y a des mois où, effectivement, au mois de Tishri, justement, parce que le Kohen, il va devoir s'immerger beaucoup de fois dans le mikvé, l'eau est froide, etc. Donc, on n'est peut-être pas intéressé à ce que ça se passe à tel moment, où on veut pas que Yom Kippour tombe Motsei Shabbat, toutes choses comme ça. Donc, on va truquer les choses, on va arranger de telle sorte que ça ne se produise pas. Donc, le tribunal, le Sanhedrin en question, il est souverain, c'est lui qui décide. Donc, si on peut essayer de dire qu'est-ce qui caractérise un esclave, a priori, c'est le fait qu'il n'est pas maître de son temps. Il travaille, mais il y a plein de gens qui travaillent. On ne parle pas de l'esclavage égyptien qui était de la torture. Mais a priori, un esclave, par exemple, un Eved Ivri, vous savez un peu, peut-être, toutes les conditions sous lesquelles on a le droit d'avoir un Eved Ivri. D'accord ? S'il vient avec sa famille, toute la famille est prise en charge, nourrie, logée, blanchie, mais il n'y a que lui qui travaille. Et il travaille, on ne peut pas lui faire faire des travaux dégradants, pas lui faire faire des travaux trop difficiles, etc. Il y a des conditions. Certains vont jusqu'à dire que quand on s'achète un Eved, on s'achète un maître en réalité. Tellement la condition de l'esclave est défendue. Quoi. Mais bon, tout ça c'est vrai, sauf que lui il peut dire, moi il sait qu'il a un certain travail à faire, il dit ben, demain je vais rentrer les foins demain, et puis maintenant son maître lui dit non, aujourd'hui tu fais de la couture. Il veut faire de la couture. Ah, c'était le bon jour pour lui, ça. Bon, c'est ça, il n'est pas maître de son temps. On me dirait aujourd'hui, il y a pas mal de gens qui ont des conditions de travail qui font qu'ils ne sont pas maîtres de leur temps. Est-ce que ça fait d'eux des esclaves? Peut-être pas formellement, mais peut-être qu'effectivement, c'est une forme d'esclavage. Peut-être la liberté d'organiser son temps comme on veut. En tout cas, on leur donne à eux, ces gens qui sont encore esclaves, donc pas libres de leur temps, c'est eux qui vont fixer le temps. Et ça, par exemple, pour les Grecs, à l'époque de Hanouka, les Grecs de cette époque-là, pour eux, c'était un scandale. C'est pas pensable que l'homme soit le maître du temps. Mais c'est ce que nous disons quand on fait la bracha à Kiddush de Yom Tov. On dit « Mekadesh Israël ve'azmanim ». Hachem a sanctifié Israël et Israël sanctifie les Moadim. Parce que c'est Israël qui fixe le calendrier. Donc toutes les fêtes qui sont, enfin tout ce qui est accroché au calendrier, comme Pessah ou Sukkot, par exemple, sont des choses qui dépendent de la décision du tribunal de Yerushalayim. Bon, bien sûr, si Hachem a fait en sorte que le ciel est voilé complètement partout, que personne n'a vu la nouvelle lune, alors, ok, il n'y aura personne qui va pouvoir témoigner, mais c'est peu vraisemblable. Mais c'est tellement important que les gens vont être mechalel Shabbat pour arriver là-bas. Et en vérité, ce qui s'est passé, c'est que très souvent, il y avait des centaines de gens qui avaient vu la lune. Éventuellement, des centaines de gens qui ont été mechalel Shabbat, mais c'était quasiment inutile. Mais à un moment donné, Rabbi Akiva, il voulait renvoyer les gens. Il disait, c'est inutile. Il les a arrêtés, je ne sais pas, un certain checkpoint, on les a arrêtés, on leur dit, écoutez, n'allez pas plus loin, ça ne vaut pas la peine. Bien sûr qu'il y a déjà des gens qui sont arrivés, qui ont témoigné. Tout le monde a vu la nouvelle lune, le ciel, il est bleu, il était complètement, pas bleu, mais il était complètement dégagé sur tout Eretz Israël, donc tout le monde a vu la nouvelle lune. Et on a dit à Rabbi Akiva, si tu fais ça, la prochaine fois, ils ne viendront pas. Donc, ça ne vaut pas la peine, il y a sûrement quelqu'un d'autre qui a vu, et donc, pourquoi est-ce que je donne. C'est fatigant d'aller à Yerushalayim. Voilà. Donc, ça, c'est la première mitzvah. Donc, c'est sûr que si la Torah est vue comme un sefer de mitzvot, alors elle doit commencer ici. Mais elle ne commence pas ici, donc. c'est qu'elle n'est pas seulement un sefer de mitzvot. Une fois qu'on leur a dit que c'est Rosh Chodesh, c'est le premier jour du premier mois, alors on est dans le premier Nissan, et tout de suite, Moshe Rabbeinu leur dit au nom d'Hachem, deuxième verset, à Moshe et Aaron, Dabrou El Kol Adat Israël. Parlez à toute la communauté d'Israël. C'est en tant que communauté d'Israël. C'est pas marqué Dabrou El Kol Bnei Israël. Mais à la communauté d'Israël. C'est un peu curieux, n'est-ce pas? Parce que ils ne sont pas vraiment encore un peuple. Ils ne sont pas encore sortis d'Égypte. Hein. Parce que la mitzvah qu'on va leur donner ici, c'est une mitzvah à accomplir en Égypte, avant de sortir d'Égypte. Alors voilà, le dixième jour du mois, vous allez faire l'acquisition d'un mouton, d'un agneau ou d'un cabri, et vous en prendrez un par maisonnée. Un agneau pour la maisonnée. Puis après, on va dire, mais s'il n'y a pas assez de gens, alors d'abord, il faut que je dise, cet agneau-là, à partir du 10, on va examiner pour vérifier qu'il n'a pas de défaut. Et puis, vous allez de façon provocatrice, si vous voulez, vous allez, par exemple, l'attacher au montant de vos lits. Et que les Égyptiens qui vont voir ça, ils vont vous demander, mais qu'est-ce que tu vas faire avec ça? Et vous allez leur dire que vous allez faire un corban, mais c'est un sacrifice avec ça. Et là, du coup, on dit, là, vous avez des Bnei Israël qui prennent un risque. Parce que c'est vrai qu'ils sont plus esclaves, mais ils habitent encore en... La loi, c'est encore la loi égyptienne, a priori. Et le 14, dans l'après-midi, on va faire la shrita de cet agneau. Et la nuit du 14 au 15, on va griller cet agneau et le manger. Donc, le mangeront, cet agneau, les gens de la maisonnée. Bon, mais si ça se trouve, il n'y a pas assez de gens pour manger cet agneau. Le soir du 14 au 15. Si on l'a pas mangé, c'est pas bien parce que il va falloir, ça s'appelle notar, et on va falloir le brûler. Brûler la viande, donc on n'aura pas mangé, il faudra la brûler. A priori. Enfin, ça serait bien aussi, mais il faudra donc la brûler. Donc a priori, on n'aime pas faire ça, c'est un corban. Donc, s'il n'y a pas assez de gens, eh bien, on va étendre la dimension de la maisonnée en quelque sorte, c'est-à-dire deux maisonnées vont s'associer, deux ou trois, ou combien il faudra. De ce Corban Pessah, par exemple, on va manger un kezaït, la quantité minimale qui s'appelle manger. En gros, presque toujours, pas Yom Kippour, mais presque toujours. Manger veut dire manger une quantité égale au volume d'une olive. Ça se mesure en volume. Après, on peut traduire, si on connaît la densité, on peut traduire évidemment en grammes, d'accord, mais c'est un volume, le volume d'une olive. Alors, bon, évidemment, il y a les olives niçoises. Il y a d'autres olives, elles sont plus ou moins grandes, est-ce qu'avant elles étaient plus grandes qu'aujourd'hui, et Aujourd'hui aussi, il y a des très grosses olives, il y en a des beaucoup plus petites, etc. Donc, il y a discussion, ça devrait donc dire une olive moyenne. Mais bon, comme chacun sait, l'olive moyenne, on ne sait pas vraiment ce que c'est. Il va y avoir des conventions, ben, les poskim, les décisionnaires vont devoir décider. Les gens vont dire aujourd'hui, je dois manger un kezaït, combien? Alors, il y aura des décisions. Il y a des décisions qui ont été prises. Et on mange ça. Bon, eux, c'est un petit peu différent, mais nous, on va manger aussi le korban Pessah, mais nous, on va le manger à Pessah. Et eux, ils le mangent. C'est Pessah aussi, mais ils le mangent encore en Égypte. Mais après, nous, on a un korban Pessah qui ressemblera beaucoup, mais pas tout à fait à celui qu'eux vont manger. Ce korban, lui, ils vont le manger. Et donc, supposez que, voilà, vous avez tant et tant de viande dans l'agneau qu'ils ont acheté, il faudra se débrouiller pour qu'on soit assez nombreux pour le consommer tout entier. Alors, vous allez le manger dans une position particulière. Vous allez le manger d'abord lui-même, cet agneau. Il faudra qu'il soit complètement grillé. Il est grillé entier avec les pattes repliées. Bon, une forme particulière. Ça doit être vraiment grillé au feu. On ne pourra pas le manger bouilli ou même grillé dans une marmite. Et puis, vous le mangerez avec des matzot et des herbes amères. Et puis, vous n'allez pas le... Donc, on répète, vous ne le mangerez pas bouilli, et et donc vous finirez, vous mangerez tout ce soir-là, et vous brûlerez s'il y a des restes, et vous le mangerez avec la ceinture aux reins, vos chaussures aux pieds, votre bâton de marche dans vos mains, et vous allez le manger très rapidement. Et ce corban-là, il s'appelle, ce que vous allez manger, ça s'appelle Pessah. Pessah ou la chaîne. Et pendant que vous mangez ça, moi, dit Hachem, je passerai dans l'Égypte. Vavarti Beretz Mitzrayim Balayla Azé. Cette nuit-là, moi, je vais passer en Égypte. Veiketi Kol Bechor et je frapperai tout premier-né Beretz Mitzrayim, hommes, animaux et toutes les divinités de l'Égypte aussi. Les jugerait, les détruirait. C'est comme en passant, c'est très curieux parce que ceci est dit en même temps qu'on est encore en train de décrire la façon dont on s'occupe de Korban Pessah. Il y a cet incident là, concernant la Makat Bechorot. Et puis, en fait, c'est un Korban. Et on a déjà vu plusieurs fois que dans un Korban, il y a deux choses. Il y a le sang et il y a la chair. Donc, quand on va faire un korban, on va prendre l'agneau, on va l'égorger, on va lui faire la shrita, on va recueillir le sang, on va en faire quelque chose, on va voir. Ensuite, on va dépecer l'animal et la viande, on va la mettre sur le misbéach. Quand on a affaire à un holocauste, c'est-à-dire un korban qui est entièrement consumé. Et si c'est un korban qui est mangé, certains sont mangés par les kohanim, d'autres fois sont mangés par les propriétaires du korban, voilà, on mettra très peu de viande sur le misbéach, un peu des entrailles, un petit peu de viande, et tout le reste sera mangé par les Kohanim ou bien par les propriétaires. Donc, en l'occurrence ici, qu'est-ce qu'on fait avec le sang? Le sang, dans les korbanot, c'est ce qui amène la kapara normalement. C'est-à-dire que le sang, on va le recueillir, on va faire des aspersions sur le misbéach. Donc, vous avez un récipient et avec le doigt, on va jeter quelques gouttes de sang en direction de misbéach, de l'autel. Et cette aspersion du sang, c'est elle qui apporte la kapara quand un korban vient pour la kapara. Alors, vous n'allez pas, il n'y a pas d'autel, là, il n'y a pas de misbéach, mais avec le sang, vous allez faire quelque chose de particulier. Vous allez badigeonner les poteaux et les linteaux de vos maisons. Le badigeon en question, il est à l'intérieur de la maison. D'accord? Ce qui est bien clair, c'est que, comme toujours, les choses sont faites pour nous. Bien qu'Hachem dise, je verrai le badigeon, je verrai le sang et je sauterai par-dessus les maisons qui, des gens mangent le korban Pessah, je frapperai les premiers-nés des maisons dans lesquelles on mange pas de korban Pessah. Mais c'est un peu plus subtil que ça parce que un premier-né égyptien, même si on le mettait dans une maison où on mange le korban Pessah, ça ne le sauvait pas. Il ne pouvait pas échapper. Les prorotes allaient être détruits. Et le terme qui est utilisé, c'est je veraiti et adam. Je verrai le sang sur les poteaux linteaux. Et c'est marqué ou passarti alechem. Je passerai par-dessus vous. Passarti, c'est ce qui donne Pessah. Le korban Pessah, c'est le korban du pass-over. Je passerai par-dessus. Et du coup, Hachem donne l'ordre. Ce jour-là, ce sera pour vous un jour de Zikaron, de souvenir, c'est-à-dire maintenant tous les 15 Nissan, toutes les nuits du 14 au 15, vous allez vous rappeler de ce qui s'est passé là, vous allez le fêter. Ce sera une fête pour Hachem, pour toutes vos générations. C'est une règle éternelle que de fêter ce jour-là. Et puis, il va y avoir Shivat Yamim Matzot Tochelu. Vous mangerez pendant 7 jours des Matzot, mais surtout le premier jour, vous ferez disparaître tout le levain et le Chametz de vos maisons. Et c'est extrêmement grave. Celui qui viendrait à manger du chametz, venir retard un effet chaou mi Israël. Cette personne sera retranchée du clan Israël. En d'autres termes, si vous ne mangez pas du korban Pessah, alors c'est comme si maintenant on regarde ce qui s'était passé à ce moment-là, qui est-ce qui n'a pas mangé du korban Pessah? C'est les gens qui ne voulaient pas sortir d'Égypte. Eux, ils n'ont pas mangé. Les autres, ils ont tous mangé du korban Pessah. Et donc, si aujourd'hui, quelqu'un ne voulait pas manger du korban Pessah, aujourd'hui, ça veut dire quand on pouvait apporter le korban Pessah, eh bien, il serait retranché du clan Israël, puisqu'il s'identifierait avec les 4/5 qui ne sont pas sortis d'Égypte. En fait, c'est un tout petit peu plus compliqué parce qu'il va y avoir une séance de rattrapage le mois prochain pour ceux qui n'ont pas pu venir. Pas ceux qui n'ont pas voulu venir. Ils n'ont pas voulu venir, ils n'ont pas de séance de rattrapage. Il y a des gens qui, pour des raisons de pureté, par exemple, n'ont pas pu venir. Les gens qui étaient trop loin, ils avaient le Covid ou ils avaient autre chose qui les a empêchés d'y aller, eh bien, ils ont une séance de rattrapage un mois plus tard. Simplement, là-bas, on va manger le sarcheni, ça s'appelle. Mais bon, il n'y a pas avoir, il n'y a pas 7 jours, etc. Il y a seulement le Korban Pessah. Il n'y aura pas d'interdit d'enlever, d'avoir du Khametz. Tu pourras, il faudra manger des matzot, mais tu pourras avoir du Khametz, posséder du Khametz. Vous garderez les matzot. A priori, ça veut dire vous garderez, vous veillerez que les matzot soient des matzot et pas du chametz. Mais si vous regardez, vous voulez bien regarder le texte, Ushmartem est un matzot, si vous enlevez la ponctuation, vous enlevez le la ponctuation, vous gardez que la graphie, et vous pourriez lire aussi Ushmartem est un mitzvot. Mitzvot et matzot, ça s'écrit de la même manière. Donc, ça veut dire, en fait, vous garderez, vous veillerez à garder toutes les mitzvot. Donc, par exemple, il faudra faire les mitzvot dès qu'elles se présentent, de même une espèce de zèle, de rapidité, pas pour se débarrasser de la mitzvah, mais pour ne pas la faire attendre, en quelque sorte. Comme les matzot, il faut les faire aussi dans un laps de temps limité pour qu'elles ne deviennent pas hametz. Il ne faut pas non plus attendre, perdre du temps. Et les mitzvot, il faut les faire dès qu'elles se présentent. Voilà donc quelques points sur ce qui se passe à ce moment-là. Donc, vous avez des gens qui sont sur le point de quitter l'Égypte et qui font rapidement ce fameux Korban Pessah. On mange avec la ceinture au rein, etc. Donc, ça commence par un Korban. Ça commence par un Korban, ça veut dire une procédure d'approche. Il faut, avant de sortir, il faut s'approcher d'Hachem pour s'intégrer à ce peuple en devenir, ces gens qui sont en train de devenir un peuple, qui vont devenir le peuple d'Hachem, qui vont devenir le peuple qui reçoit les mitzvot, et donc il faut s'approcher de lui, et une des façons de s'approcher, c'est d'apporter un korban. Parce que le korban, le mot korban, c'est construit sur karov, sur la proximité. Et donc, on reprend le fil. Et donc, effectivement, comme Hachem l'avait dit, au milieu de la nuit, il y a cette mort de tous les Bechorot. Et à ce moment-là, Paro se lève. On voit là que, visiblement, il était allé se coucher. Ça montre quand même une force ce type-là, il vient déjà de prendre sur la figure 9 plaies. On lui annonce quelque chose d'atroce. Monsieur va dormir. Et il semble qu'il a dormi jusque-là. La clameur l'a fait se lever, mais il a la force de dormir. C'est à la fois un culot et une force incroyable. Mais ils n'en peuvent plus. Ça crie de façon terrible en Égypte, puisque il y a des morts partout, parce qu'en plus, ça fait aussi un peu de scène de ménage, parce que tout à coup, on s'aperçoit que certaines personnes dont on pensait qu'elles étaient premiers-nés ne le sont pas. Donc, il y a toutes sortes d'adultères et autres qui se dévoilent là-dedans. Donc, il y avait beaucoup de bruit. Et pas pour rien, cette fois-ci, c'était vraiment pour de bonnes raisons. Et bon, le paro va finir par trouver Moshe et Aaron et il va leur dire « Kumut seum itoch ami »« Levez-vous, sortez de mon peuple. Vous, tous les bnei Israël, et allez, servez Hachem comme vous l'avez dit. » Et vous pouvez prendre avec vous tout votre petit bétail et le gros bétail, prenez-les comme vous avez dit, et partez et bénissez-moi. Le bonhomme, il demande une bracha. Et donc le peuple a fait pression sur les bnei Israël, partez, parce qu'on va tous mourir, quoi. Et donc, les Israël sont partis en catastrophe. En catastrophe, ça veut dire, pour une raison qu'on explique autour de Pessah, ils n'ont même pas eu le temps de faire du pain complètement. Donc, ils ont pris de la pâte qui n'était pas encore fait, qui n'avait pas encore monté, et ils sont partis. Et du coup, on va manger les matzot pour en souvenir de ces, pas en souvenir des matzot qu'on a mangés en Égypte. Et pas parce qu'ils ont mangé des matzot au Korban Pessah de l'Égypte, là, mais parce qu'ils n'ont pas eu le temps de faire du pain, de laisser monter le pain. Ils auraient dû, normalement, laisser monter le pain, parce que, du coup, ce pain qui monte, il représente la liberté, parce que jusque-là, évidemment, on leur donnait à manger que des matzot. Donc, le pain qui monte, c'était symbole de forme de liberté. Ils n'ont pas eu le temps. Ça n'a pas eu le temps, donc nous, on va manger les matzot. Eux, ils ont mangé les matzot aussi au départ, jusqu'à ce qu'ils mangent de la manne. Et puis, ils ont effectivement fait ce que Moshe avait demandé au nom d'Hachem. Ils ont bien emprunté avec les ustensiles d'or et d'argent, et aussi des vêtements. Et Hachem, là, on répète qu'Hachem a fait en sorte que les Bnei Israël étaient très bien vus par les Égyptiens. Et ils ont demandé, et ils ont « Vaynatzlou et Mitzrayim ». Quelque part, ils ont dépouillé l'Égypte. Dépouillé l'Égypte. Ils n'avaient quand même pas tout pris, puisque il va y avoir encore beaucoup, beaucoup de choses au butin du passage de la mer. Donc ça, et donc quand on dit qu'ils ont dépouillé l'Égypte, c'était pas complètement, puisque sinon il y avait plus rien à gagner enfin, comme butin de la mer. Donc là, en l'occurrence, voilà, il reste des choses, hein, il restait des choses pour que les Israël les récupèrent au passage de la mer. On dit, Vaynatzlou et Mitzrayim, on considère que il y a une théorie qui dit que il y a des nitzotzot, des étincelles de Kdusha un peu partout. Et que le galout prendra fin quand on aura récolté, récupéré toutes ces étincelles. Et du coup, on a dit que Quand ils sont partis, il n'y avait plus d'étincelles à récupérer en Égypte. C'est la raison pour laquelle la Torah va dire au Bnei Israël, vous n'avez pas à retourner en Égypte. Parce qu'il n'y a plus rien à chercher. Toutes les étincelles sont prises. Voilà, c'est la situation aujourd'hui. Voilà.